Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Il n'y en a point comme toi dans le ciel et sur la terre. Il n'y en a point comme toi dans tout l'univers. Tu es digne. Non, ce n'est pas un homme qui est digne. Non, ce n'est pas la chair qui est digne. Cette chair est indigne. Et cette chair retournera à la poussière. C'est toi qui es digne, Seigneur. C'est toi seul, mon Dieu. Alors que nous chantons, Seigneur, les larmes remplissent nos yeux. Nos cœurs frémissent. Nous voudrions, Seigneur, encore chanter, être dans ta présence, Seigneur, jouir de ta présence. Ô mon Dieu, tu sais que nous sommes dans le temps. Mais bientôt, le temps finira. Et nous serons enfin dans l'éternité à laquelle tu nous as destinés. Aide-nous, Seigneur, à passer ce temps court qu'est notre vie, à te glorifier et à nous souvenir qu'un jour nous nous tiendrons devant toi et que ces années de notre vie n'étaient que poussière. Combien de fois nous avons donné la priorité aux choses de la terre plutôt que de donner priorité aux choses éternelles. Et à cause de cela, nous sommes devenus pauvres, pauvres, pauvres. Ô Dieu, veuille nous aider. Tu pourvoiras nos besoins physiques pour le temps actuel, ce temps qui passe. Mais Seigneur, les vraies valeurs, c'est les valeurs de l'éternité. Donne-nous de le comprendre, de le saisir. S'il te plaît, parle-nous encore, Seigneur, s'il te plaît. Toi, Jésus, la sagesse n'est pas dans l'homme, mais elle est en toi seul. Et comme toujours, nous te supplions, Seigneur, viens à notre aide. À nous qui parlons, à nous qui écoutons, garde-nous d'être distraits et que l'Esprit de Dieu parle, que l'Esprit de Dieu plane sur cette place, ce travail dans nos cœurs. Ô Esprit Saint, s'il te plaît, tu es saint, saint, saint. Par toi, nous pouvons parvenir à la sainteté et que cette sainteté, Seigneur, soit notre partage. Juges chapitre 6, à partir du verset 33, nous allons encore relire. Tout Madian, Amalek et les Bédouins de l'Orient se rassemblèrent, passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jisréel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, il sonna du cor et le clan d'Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Aser, dans Zabulon et dans Nephtali qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, si tu veux sauver Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici. Je vais mettre une toison de laine sur l'air. Si la rosée vient sur la toison seule, et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu sauveras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Il en fut ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et exprima la rosée de la toison, plein une coupe d'eau. Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme pas contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. » Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche et que la rosée vienne sur toute la terre. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison resta sèche et la rosée devint vin sur tout le terrain autour. Que veut nous dire cette parole? Vous vous souvenez, nous avons parlé la dernière fois que l'Esprit de l'Éternel revêtit Gédéon. Nous avons vu aussi comment le Saint-Esprit se manifeste dans l'Ancien Testament de façon différente qu'il ne le fait aujourd'hui. Ce Saint-Esprit dans l'Ancien Testament descendait sur des hommes, elle les revêtait, des hommes qui n'étaient pas nés de nouveau, puisque la nouvelle naissance n'était pas quelque chose de connu ni de réel. Pourquoi le sacrifice suprême pour le péché n'avait pas été offert encore? Il n'y avait que quelques individus à l'occasion, lorsqu'il y avait des tâches spéciales, surnaturelles, des choses spéciales à faire ou à dire, que l'Esprit de Dieu descendait sur ces hommes de Dieu, afin qu'ils fassent quelque chose qui les dépasse, qui ne pouvait pas dans le domaine du naturel. Dieu opère toujours dans le domaine du surnaturel. Mais à cette époque-là, tout le monde était dans le domaine du naturel. Mais à notre époque, Dieu nous appelle, à nous qui croyons, à demeurer, à être dans le domaine du surnaturel. Et beaucoup trop de chrétiens restent dans le domaine du naturel. Quoi qu'on ait de nouveau, ils restent dans le domaine du naturel. Et ils ne prennent pas bénéfice de la grâce qui leur est donnée et de l'Esprit qui est sur eux et en eux. Car à cette époque-là, l'Esprit n'était que comme un vêtement revêtu. Ils n'étaient pas remplis de l'Esprit. Nous l'avons déjà dit, je vous rappelle ces choses. Ces gens n'étaient que revêtus temporairement. Ils étaient saisis de l'Esprit de l'Éternel et faisaient et disaient des choses qui les dépassaient, qui dépassaient l'entendement humain, qui dépassaient le domaine du naturel. Voilà. Je voudrais finir là, finir ce que je n'ai pas dit dimanche dernier. Dans la Nouvelle Alliance, tout est différent. Notre position en Christ est combien plus riche et combien meilleure. Pour nous, le Saint-Esprit est illimité quant à son extension, alors qu'avant, il n'était que de façon ponctuelle sur certaines personnes et non pas sur tous. Ce Saint-Esprit n'est pas que pour quelques croyants, quelques hommes particuliers que Dieu a choisis pour une tâche particulière, non. Sur des gens un peu spéciaux, non. Mais cet Saint-Esprit est répandu sur toute chair, comme disait le prophète Joël, en attendant ces temps de la fin qui ont commencé au jour de la Pentecôte. Et Pierre a bien repris ce message. Et cette parole du prophète Joël, sur toute chair. Pourquoi? Parce qu'avant, il n'était pas sur toute chair. Dans Romains 8, 9, il est écrit, « Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit. Vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sur celle de l'Esprit. Oh, combien je voudrais que chaque chrétien baptisé du Saint-Esprit soit sous l'emprise de l'Esprit et non pas sous l'emprise de la chair, car avec Christ, depuis qu'il a été crucifié, la chair, notre chair, ma chair, doit être crucifiée. Elle ne doit plus réagir. Elle ne doit plus être jalouse. Elle ne doit plus avoir de la colère. Elle ne doit plus avoir de l'envie. Elle est morte, elle est morte, elle doit être morte. Elle ne doit plus être cupide. Elle ne doit plus être avare. Elle ne doit plus être capricieuse. Elle ne doit plus être menteuse. Elle est morte, car tout cela, ce sont des choses de la chair. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si du moins, voilà la condition, si du moins, si vous faites encore ces choses-là, c'est que l'Esprit de Dieu n'habite pas en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà la condition. Que l'Esprit de Christ soit en nous, que l'Esprit de Christ agisse en nous et à travers nous, et la chair est et doit être crucifiée. Donc cet Esprit ne se limite plus à quelques personnes, quelques exceptions. Il ne se limite plus seulement au service chrétien, mais il agit dans la vie de chaque jour, dans l'existence terrestre de chaque individu qui est né de nouveau et dont le témoignage est conforme. témoignage de la vie, témoignage des actions, témoignage des paroles, témoignage des comportements. C'est ainsi que nous pouvons toucher le cœur de ceux qui sont dans notre monde, et qui sont esclaves de Satan et malheureux. Avoir l'image de Christ en nous, nous ne pouvons l'avoir par nous-mêmes, si ce n'est par l'Esprit qui habite en nous, qui est l'Esprit de Christ. C'est par l'Esprit que nous sommes rendus capables d'être des serviteurs de la nouvelle alliance en Christ. Le Saint-Esprit est illimité dans le temps, à notre époque. Jésus-Christ a promis qu'il serait avec nous toujours. Dieu nous a scellés. Il nous a scellés par son Esprit. Nous lui appartenons. Jean 14, 16 à 17. Il nous a aussi marqués de son sceau et mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Voilà. Autrement dit, le gage, autrement dit, l'avance, une avance pour s'assurer un marché. C'est un terme commercial. Je verse des arts. Peut-être que ce n'est pas beaucoup utilisé au Congo, mais c'est tout à fait français. C'est une avance afin de s'assurer ce marché. On bloque le marché. Le compte sera soldé un peu plus tard. Les arts de l'Esprit. Il nous a aussi marqués de son sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je remercie le Seigneur. S'il nous donnait la complète quantité de l'Esprit disponible pour nous, que nous aurons, nous allons exploser. Car nous ne sommes que des hommes de chair, fragiles. Mais bientôt, il nous donnera un corps glorifié. Bientôt, il nous donnera un corps qui supportera tout ce qu'il voudra nous donner, je ne sais pas. Mais pourquoi il nous le donne? Il nous aime, c'est tout. Ephésiens 1, 13, 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, c'est ce que nous prêchons. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis, lequel est un gage. Voilà. Les arts, un gage de notre héritage. Autrement dit, nous avons un héritage avec Christ, un héritage impérissable, un héritage dans la gloire, un héritage qui demeure, un héritage qu'aucun voleur ne peut voler, un héritage qu'aucun magouilleur ne peut détourner. Alléluia. Un héritage. Le gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Que Dieu s'est acquis, il nous a acquis. On acquiert en vertu d'un échange de monnaie, d'un échange de valeur. Oui, il nous a acquis par le prix qui était payé pour nous à Golgotha en Jésus-Christ. Et c'est ainsi qu'il nous rend héritiers. Par l'Esprit, de l'Esprit, nous n'avons que les arts, nous n'avons qu'une avance. L'avons-nous? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Réfléchissons. L'Esprit de Christ est saint, l'Esprit de Christ n'est pas menteur, il n'est pas magouilleur, l'Esprit de Christ n'est pas corrompu, l'Esprit de Christ n'est pas plein de convoitise. L'Esprit de Christ est un esprit d'amour, de paix. L'Esprit de Christ est un esprit de respect et d'amour du prochain. Le Saint-Esprit influence et agit. Le Saint-Esprit transforme notre caractère. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le plus grand besoin de la vie est une force intérieure. Le plus grand besoin de la vie est un caractère changé, transformé. C'est ce que l'Esprit fait en nous. C'est ce que l'Esprit a fait en Gédéon. Mais à cette époque-là, le pauvre Gédéon n'était pas né de nouveau. Vous allez encore le comprendre. Nous devons savoir que la parole de Dieu est claire. Le même Esprit qui a revêtu Gédéon est venu habiter en nous. Différence. À nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes son temple, nous sommes son habitation, nous sommes son œuvre. Et son œuvre s'accomplit de plus en plus pour nous sanctifier et nous sanctifier encore dans nos vies. Et son œuvre est plus riche envers nous que du temps de Gédéon et même dans la vie de Gédéon. Et pourtant, quel exploit n'a-t-il pas fait Gédéon avec l'Esprit de Dieu? Nous apprenons une chose importante qui est la même pour nous aujourd'hui comme cela l'était pour Gédéon. Le Saint-Esprit ne détruit pas notre individualité. Quand Gédéon a été revêtu du Saint-Esprit, il est resté Gédéon. La même figure, le même homme qui parle la même chose, qui s'exprime la même chose, qui est Gédéon. Il n'est pas devenu un individu autre. Dieu nous a fait d'une certaine façon. Avec un long nez, avec un petit nez, avec des oreilles comme ça, avec des oreilles comme ça, avec des grandes dents, avec des petites dents, très grands, très petits. Ça, c'est la tente, comme dit la parole de Dieu. Une tente éphémère, une tente qui passe, une tente qui s'use. Mais là-dedans, attention, cette tente, elle reste la même, mais l'intérieur, c'est différent. Alléluia. Par la nouvelle naissance, le nouvel homme prend toute la place. Un exemple. Nous avons à la maison de l'électricité, évidemment, quand la SNEL marche. Aïe. Dans mon quartier, il y a des coupures 3 fois, 4 fois par jour. Mais nous sommes supposés, aujourd'hui à notre âge moderne, d'avoir l'électricité dans nos maisons, laquelle nous éclaire à travers des ampoules électriques. Dans cette petite boule de verre, il y a un vide, un filament négatif, un fil négatif, un fil positif. On a mis entre deux un matériau qui résiste au feu. Et quand ces deux forces se rencontrent, ça fait un arc. Et on garde cet arc. On garde cet arc sans qu'il disparaisse. Vous voyez, ça chauffe, bien sûr, mais il reste là et ça nous éclaire. Merveille, l'électricité. Mais avec cette même électricité, vous avez le soudeur avec son appareil. Là, il provoque un arc qui ne demeure pas, mais qui chauffe très fort et qui soude. Formidable. Mais dans nos maisons, nous avons aussi quelque chose pour chauffer nos plats. Ça s'appelle le four, c'est toujours la même électricité. Nous avons peut-être une machine à laver pour laver le linge. Nous avons aussi peut-être, disons, un fer à repasser pour défroisser nos vêtements. Toujours la même électricité, d'accord. Et par la radio, nous avons les nouvelles, nous avons la musique. Encore, toujours la même électricité qui vient de la même source. Et chaque appareil fonctionne individuellement, chacun d'eux. On peut allonger la liste indéfiniment, n'est-ce pas? Mais c'est toujours la même base, la même électricité. Mais l'appareil, chaque appareil est différent. Il a sa spécificité. Voilà. Mais s'il n'y a pas l'électricité, s'il y a une coupure de courant, comme la SNEL nous impose, alors tous ces appareils deviennent inertes. Le climatiseur s'éteint, il commence à faire chaud. L'ordinateur s'éteint, il n'y a plus d'électricité, comme toujours. On ne peut rien chauffer. C'est la panique. Tout est inerte et incapable de faire quoi que ce soit tant qu'ils ne sont pas connectés. On utilise ici beaucoup branché, mais c'est un mot qui me fait rire. Branché. C'est pas que je le dise à notre radio. Branché. Je me souviens d'une histoire, il y a bien des années de cela, d'un monsieur, un colonial du passé, qui parlait de brancher ceci ou cela. Et son serviteur a porté plainte. Ah oui, pourquoi ? Mais il m'a comparé à un singe. Ah bon, pourquoi ? Mais il a parlé de que j'étais branché. C'est une histoire qu'on raconte. Si l'appareil n'est pas connecté, si vous n'êtes pas connecté à parole éternelle, vous n'allez pas entendre. Ils vous diront là-bas branché. Mais moi, je leur dis, il faut changer un peu ce langage. Si nous ne sommes pas connectés, et qu'une main nous saisit, il faut qu'une main tourne le bouton du fourneau. Il faut qu'une main tourne le bouton de la radio. Il faut qu'une main saisisse le poste à souder. Il faut qu'une main saisisse la scie circulaire. C'est toujours la même électricité, mais il y a une main qui doit la saisir. Ah oui. Dieu a fait de nous des individus. Et quand nous sommes connectés au Saint-Esprit et que sa puissance nous pénètre, nous fonctionnons suivant notre individualité contrôlée par Dieu. Contrôlée par Dieu. Contrôlée par Dieu. Contrôlée par Dieu. Dans la question des postes à souder, ça chauffe, ça brûle. Amen. Il y en a qui sont comme des radios. Blablabla toute la journée. Mais plus à Dieu que nous soyons contrôlés par le Saint-Esprit. Parce que si nous sommes contrôlés, la capacité individuelle qu'il nous a donnée sera productive pour la gloire de Dieu. Une autre chose, le Saint-Esprit réagit à l'obéissance. Le Saint-Esprit revêtit Gédéon à cause de son obéissance. Obéissance bien, bien fragile, mais obéissance quand même. Le vêtement, il était revêtu du Saint-Esprit. Le vêtement ne lutte pas contre celui qui en est couvert. Mais ce vêtement, il va partout où le corps va et il épouse les formes du corps, c'est pas vrai? Le corps humain n'est pas passif, mais il est actif. Alors attention à ce que nous faisons avec ce vêtement merveilleux qui nous a revêtus et qui nous a remplis. Il vient de Dieu. Il ne vient pas de l'homme. Pourquoi ? Parce qu'il peut se retirer et nous devenons faibles et nous devenons nus. Comme Adam et Ève quand ils ont péché. Ils virent qu'ils étaient nus. Vous croyez que Dieu les avait fait nus? L'Esprit de Dieu s'est retiré. Pourquoi? L'Esprit de Dieu est saint. Il est saint. Il est saint. Alors soyez saints. Il vous revêtira. Non seulement il vous revêtira, mais il vous remplira. Nous voyons que les Madianites vont une nouvelle fois envahir le pays. Et ils ont traversé le Jourdain, c'est ce que nous avons lu. Comme chaque année, il le fait. Ils n'ont jamais rencontré d'opposition. Et ils pensent que, comme d'habitude, ils vont de nouveau envahir le pays, ramasser toutes les récoltes, ramasser tout ce qu'ils trouvent et repartir. Ils ne sont pas intéressés dans les terres, mais dans tout ce qu'ils pourront trouver. Le bétail, les biens, des pillards. Mais Dieu a revêtu un homme. Un homme, un seul. Dieu n'en a pas besoin de beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il est Dieu. Mais maintenant, ce n'est plus ainsi. Ce n'est plus ainsi. Ce n'est plus comme avant. Parce que Dieu a revêtu un homme. Il l'a préparé. Il l'a fortifié. Il l'a équipé. Un homme où ceci se voit, un groupe d'hommes. Mais ce n'est jamais une majorité. Souvenez-vous de cela. Vous voulez attendre une majorité pour voir Dieu travailler? Ce n'est pas comme cela qu'il travaille. Dieu travaille avec la minorité. C'est soit un homme, soit un groupe d'hommes, une minorité, et tout le monde dira, vous êtes fous. Gloire à Dieu. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Voilà. Gédéon sonna de la trompette. Et les hommes se rallièrent à lui. Ils vinrent en premier de son propre clan, de sa propre famille, Abiézer. C'est son clan. Ils sont encouragés par sa foi, par son témoignage. Il devient de plus en plus connu, lui qui n'était pas connu. Il n'a pas eu besoin des médias pour qu'on le connaisse. Il n'a pas eu besoin de la radio pour qu'on le connaisse. Il n'a pas eu besoin de faire un parti politique pour qu'on le connaisse. Il n'a pas eu besoin de distribuer l'argent à gauche, à droite pour qu'on le connaisse. Il a fallu seulement que la main de Dieu soit sur lui. Et les autres sont encouragés. Et les autres le suivent. Mais il n'est pas dit que les autres étaient revêtus de l'esprit. Non. Abiézer, sa propre tribu, Manassé, la tribu d'Asser, la tribu de Zabulon, la tribu de Nephtali. Quelle différence entre le Gédéon peureux, découragé, négatif, comme nous l'avons vu. Il est sous le contrôle de l'esprit désormais, sous le contrôle de Dieu. Ce n'est pas par la force humaine, la puissance humaine des armes, mais c'est par l'esprit de Dieu que Gédéon a été équipé pour le servir. Tous ces principes sont valables pour nous aujourd'hui. Comment puis-je connaître la volonté de Dieu? Voilà, parce que Gédéon a encore un problème. Dieu a fait tellement, Dieu a parlé, Dieu a fait beaucoup de choses pour lui, et il est encore dans l'incertitude. Ça, c'est vrai, il n'était pas né de nouveau. Comment puis-je connaître la volonté de Dieu dans ma vie? Et très souvent, nous, aujourd'hui, à notre époque, alors que l'Esprit est donné à chacun de ceux qui croient et qui sont nés de nouveau, nous sommes hésitants comme Gédéon. Nous sommes hésitants. Comment connaître la volonté de Dieu? Je ne sais pas. Où aller? Que faire? Qu'est-ce que je dois rechercher? Est-ce que je dois rechercher toujours quelques manifestations spéciales pour connaître la volonté de Dieu? Est-ce que je dois rechercher des manifestations spectaculaires, des manifestations surnaturelles avec des signes, de façon que je sois sûr? Oh Dieu, donne-moi un signe. Voilà un passage troublant que celui de la toison que Gédéon a mis là comme test. Devons-nous faire ce que Gédéon a fait? Est-ce ainsi que Dieu nous dirige et nous fait connaître sa volonté? Devons-nous demander à Dieu des signes? Vouloir ces signes à tout prix? Des signes particuliers? Des signes déterminants? Des signes qui seront pour nous le doigt de Dieu? Je dois aller là. Je dois marier cette fille. Je dois marier ce garçon. Je dois faire cette tractation commerciale. Je dois aller en Europe. Oh là là là! Il y en a beaucoup qui disent, Dieu m'a parlé, je l'ai vu. J'ai rêvé la nuit. Que devons-nous comprendre? Que devons-nous faire? Comment connaître sa volonté de façon infaillible? Si vous avez été chrétien durant plusieurs années, vous avez sûrement entendu parler de cette pratique. Et peut-être que vous l'avez essayé sans trop de succès, de cette pratique de Gédéon à mettre une toison. Si l'eau est dans la toison et que c'est sec tout autour, je sais que tu es avec moi et que je vais vaincre Madian. Le lendemain, bon, le contraire. Si la toison est sèche et que l'eau est tout autour, je sais que tu es avec moi pour vaincre Madian. Il y a des gens qui prennent cet exemple. Vous voyez ce qu'a fait Gédéon. Donc, moi, je mets ma toison. Ce n'est pas toujours une toison, mais c'est semblable à une toison. Le principe est le même. Il y en a qui font comme ça. La pratique de la toison est un chemin par lequel certains essayent de trouver la volonté de Dieu. Écoutez, c'est simple. Oh Dieu, tu sais que je suis indécis et je ne sais pas quel plan est celui qui est selon ta volonté. Il y a le plan A. Je ne sais pas si c'est le tien. Et il y a le plan B. Je ne sais pas si c'est le tien. Quelle est ta volonté? Il y a deux chemins. Des fois, il y en a trois. Des fois, il y en a quatre. Montre-moi, mon Dieu. Oh, ta volonté, Seigneur. Seigneur, je suis sûr que c'est ta volonté que je me marie. Ah oui, oui. Seigneur, tu sais, j'ai déjà 28 ans. J'ai 32 ans. C'est ta volonté que je me marie. Oh, je vais me marier, Seigneur. Mais avec qui? Cette sœur, je vais prendre le cas d'une sœur. Elle dit à Dieu, si je rencontre le frère Robert ce matin, je sais que c'est lui. Mais si je rencontre le frère Justin mardi matin, je sais alors que c'est Justin. Ils sont les deux très sympathiques. Je n'ai pas de problème pour les marier, soit l'un, soit l'autre. Mais quelle est ta volonté? Mais voilà que ce matin, c'est justement Justin qui arrive. La voilà indécise. Oh Seigneur, je t'avais demandé, puis voilà, c'est tout à l'envers. Il y en a d'autres qui disent, si je reçois un appel téléphonique à 10 heures ce matin de cet homme d'affaires pour conclure ce marché, alors je sais que tu es d'accord que je fasse cette affaire. Mais voilà, un appel téléphonique arrive à 9h30 ou peut-être à 10h30. Me voilà dans le trouble. Seigneur, est-ce que c'est Satan qui me tend en piège? Nous savons que ça se passe ainsi. Frères, sœurs, on pourrait parler de beaucoup d'exemples. Il n'y a pas de chose plus importante pour le chrétien que de connaître la volonté de Dieu, que d'être dans la volonté de Dieu. Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je veux faire ta volonté. Voyons, comment je vais pouvoir savoir? Alors, on est en train de fabriquer des toisons, comme Gédéon, dans notre tête, dans notre esprit. Je connais des cas malheureux. Seigneur, s'il me demande cette semaine en mariage, je sais que c'est toi. Et puis voilà, il a demandé en mariage. Oh, la voilà toute contente. La voilà toute contente. Oh, merci Seigneur. D'accord, d'accord, on va se marier. On se marie en grande pompe, la famille est riche du reste. Elle est riche, elle a beaucoup de biens, ça se passait en Europe. Elle a beaucoup de biens et tout ça. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Mais quoi? C'est magnifique. On a vu plus tard. On a vu plus tard. Un gros paresseux qui restait tout le temps à la maison, qui était toujours derrière son journal, qui ne s'inquiétait pas de ses affaires, ses affaires qui étaient très grandes, à tel point qu'il a été volé, qu'il a été, etc. Il a tout perdu. Tout perdu. Mais il voulait parler de Dieu, il voulait évangéliser. Est-ce que Dieu emploie les paresseux? Fais d'abord ce que tu dois faire maintenant et soutiens ta famille. Et quand les enfants sont nés, parmi eux, la catastrophe. L'un, ivrogne, homosexuel. Le deuxième, enfin, des garçons, complètement, c'est pas le deuxième, enfin, parmi les garçons, il y en a eu cinq. Parmi les garçons, un, l'autre, un caractère impossible, un jour, il a battu sa mère d'une façon terrible. Il était en prison. L'autre, il a été en prison également, à cause de la drogue. La mère qui pleure, qui pleure, qui pleure. Ah, Seigneur, j'avais prié. J'ai cru que c'était ta volonté. Oui, il n'y a rien d'autre de plus important que de connaître la volonté de Dieu. Il est logique de la chercher. Il est logique de la connaître. Il est logique de vouloir la faire, cette volonté. C'est Dieu qui nous a formés. Il sait tout. Ce qui nous concerne, notre vie physique, notre vie émotive, notre vie sentimentale, il connaît tout et c'est lui qui a fait tous ces domaines de notre vie. Et notre vie spirituelle, c'est lui qui a fait. Seigneur, je voudrais me marier. Je voudrais avoir un homme qui m'aime. Seigneur, je voudrais avoir une épouse. Et qu'elle soit belle, qu'elle soit jolie, qu'elle soit bien. Qu'on soit heureux ensemble. Moi, j'ai prié ça, je vous dis. Oh oui, j'ai prié ça. J'ai prié ça. Mais je n'ai pas demandé le signe. Je n'ai pas mis de toison. Non. Deux fois, j'ai regardé des filles qui étaient pas mal du tout. Mais elles ne voulaient pas venir en Afrique. Alors, je laisse. Dieu m'a appelé en Afrique. La volonté de Dieu, mais je la connaissais. Je la connaissais. Retourne en Afrique. Et pour retourner en Afrique, il faut quelqu'un qui aime l'Afrique aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de mettre une toison? Il a vu. Il a envoyé. Elle est avec moi depuis 47 ans. Je ne me trompe pas, hein. Vous voyez, nous faisons deux choses simples, des choses compliquées. Pourquoi ? Notre foi. Nous n'avons pas foi que Dieu répond aux prières. Écoutez, notre problème, c'est un problème de foi. Nous prions, après avoir prié, nous pensons, Dieu ne va pas répondre à ma prière, il faut que je l'aide. Il faut que je l'aide. Quand une porte s'ouvre, après avoir prié, une porte s'ouvre, nous sommes là devant cette porte ouverte, on se gratte la tête, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Tu as prié, ça je vous parle de mon expérience. Tu as prié pour combien de cas dans ma vie? Seigneur, tu sais, je veux faire ta volonté. Oh, je l'ai dit 1000 fois dans ma vie. Oh, 1000 fois, c'est insuffisant. Plus encore. Seigneur, prends tout. Seigneur, mon corps, ma vie, tout. Je n'ai rien. Rien à moi. Rien. Tout ce que je peux avoir, c'est toi qui me le donnes. Je suis ton esclave. Fais ce que tu veux, là où tu veux que j'aille. Si tu veux que je reste au Congo, peu importe, je resterai au Congo. Seigneur, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu veux. Pourquoi? Parce que si tu es avec moi, il y aura le succès. Si je suis seul, je ne peux pas. Il faut que tu restes avec moi, Seigneur. Alors je veux marcher là où tu marches, dire ce que tu veux que je dise, aller où tu veux que j'aille, mettre ta parole dans ma bouche. Seigneur, pas mal la mienne, non, non,
ce que tu veux que je dise.
C'est ça que je veux dire. C'est tout. Et puis voilà, j'ai vu que chaque fois que je prie, et puis que subitement, là, une porte s'ouvre dans telle direction, je fonce. Pourquoi? Parce que je sais qu'il répond. Oh, ce n'est pas toujours ce que je voudrais, mais ma chair n'a rien à dire. Cette chair, elle doit être crucifiée. Tais-toi, chair! Tais-toi, coutume! Tais-toi, soi-disant conseil de la famille, de ceux qui ne marchent pas avec Dieu, de ceux qui marchent selon la coutume de la tribu, de ceux qui marchent dans les puissances occultes. Qu'est-ce qu'ils ont à te dire? Ce n'est pas eux qui te conduisent, c'est le Dieu vivant par l'Esprit. Tu es rentré dans une nouvelle dimension, dans la dimension de l'Esprit. Alors, jusqu'à quand tu vas écouter des païens pour te dire ce que tu dois faire, ou de faux chrétiens pour te dire ce que tu dois faire? Des gens qui désobéissent à Dieu, avec le nom de Dieu dans la bouche, respecte-les, aime-les, mais fais attention, car leur conseil n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Ne mélangeons pas les choses. Oui, j'ai prié tant de fois. Je sais que Dieu répond aux prières. Il répond aux prières. Il est logique de chercher à connaître sa volonté pour la faire. Il nous a formés. Il sait tout à mon sujet, physiquement, spirituellement, matériellement, dans mes émotions, dans mes sentiments. Il a créé tout ça en moi et il a bien fait. Il n'est pas bon d'avoir des sentiments. Il n'est pas mauvais, pardon, d'avoir des sentiments. Il n'est pas mauvais que d'être sensible, pour autant que tout cela est conduit par l'Esprit de Dieu. Les émotions, c'est Dieu qui les a mis en nous. Nous n'avons pas besoin de bagarrer contre nos émotions. Et si nos émotions sont dirigées par l'Esprit, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Rien n'est mystérieux en moi, rien. Il sait tout, il connaît tout, et il connaît le chemin que je dois suivre. Et ce chemin est selon son plan en ce qui concerne ma vie individuellement et en ce qui concerne ma destinée personnelle dans son plan collectif universel. J'ai une place. Dans son plan pour moi personnellement, dans son plan pour moi dans la société, dans son plan pour moi dans son plan universel. En plus, il m'aime tellement. Alléluia. Il m'aime tellement qu'il a envoyé son Fils dans le monde, Jésus-Christ, pour me sauver. Il veut le meilleur pour moi. Il veut le meilleur pour moi. Mais la question demeure, comment connaître sa volonté? Sa volonté est tellement importante pour moi. Je marche avec lui et c'est important que je fasse ce qu'il veut que je fasse. Lui, il voit demain. Lui, il voit après-demain. Lui voit dans 1000 ans, moi je ne vois pas demain, je suppose demain, mais je ne le vois pas. Je suppose. Tandis que lui le voit, et il veut le meilleur pour moi. Alors ce meilleur passe par son chemin, et pas mon chemin. Il y a des fois, nous désirons tellement ardemment quelque chose, que nous nous persuadons nous-mêmes que c'est la volonté de Dieu. Et après, nous nous cassons la figure. Excusez-moi de l'expression. Combien de chrétiens se sont cassés la figure? Ah, je sens dans mon cœur que c'est la volonté de Dieu. Et puis c'est la faillite. Croyez-vous que le chemin de Dieu est un chemin de faillite? Et Dieu ne change pas d'idée à tout moment, comme certains changent d'idée à tout moment. Oh, Dieu m'a dit ceci. Oh, Dieu m'a dit cela. Et puis une semaine après, c'est le contraire. Dieu m'a dit autre chose. Dieu se trompe beaucoup. Pourquoi? Nous nous abusons nous-mêmes. Où est notre foi? Que faisons-nous de la prière? Croyez-moi, c'est exceptionnel quand Dieu montre de façon tellement clair, par des lettres écrites sur un mur, par un message donné de façon particulière, qu'il parle à un individu, ceci peut arriver, je n'en disconviens pas, mais ce n'est pas la méthode qu'il utilise pour chacun de nous chaque jour. La méthode qu'il utilise, marcher par la foi. Et la foi passe par la prière et la communion avec Dieu. Et la foi passe par la lecture de la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a sa volonté. Mais Gédéon n'avait pas la parole de Dieu. Il n'avait que la tradition orale au milieu d'une société qui était retournée au paganisme. Il connaît le meilleur chemin que je dois suivre. Son plan est le meilleur. Sa volonté est si importante pour moi. Je dois la connaître, cette volonté parfaite. Je dois y marcher. Je dois faire ce qu'il veut que je fasse. Et ceci dans tous les domaines de ma vie et dans toutes ses étapes. À chaque décision que je prends, je veux connaître sa volonté, sa divine volonté dans mes affaires, dans mon travail professionnel, au milieu de ma famille, dans mes actions, quelles qu'elles soient, dans mes décisions. Non, la volonté de Dieu ne s'exerce pas seulement ici à l'église quand on est ensemble, mais la volonté de Dieu, c'est dans la vie de chaque jour. Chauffeur de taxi, cherche la volonté de Dieu. Toi qui plantes ta plantation quelque part à Songololo, eh bien, demande la volonté de Dieu. Tu as un problème, on était injuste avec toi. Je veux porter l'affaire au tribunal. Demande la volonté de Dieu. Est-ce juste? Oui, bien sûr, ton cas est juste. Mais est-ce la volonté de Dieu que tu portes plainte contre ton adversaire? L'as-tu seulement rencontré? As-tu parlé avec douceur et amour? As-tu essayé une conciliation et une entente? Il ne veut pas. Ça va. Au revoir. Ne sais-tu pas que tu amasses des charbons ardents sur sa tête? Crois-tu plus dans la volonté des hommes que la volonté? Pardon. Crois-tu plus dans la justice des hommes que dans la justice de Dieu? Crois-tu plus dans la justice du Congo que dans la justice divine? Ah, ça n'opère pas la même chose. C'est vrai. Peu importe. Ce qu'il veut, c'est de sauver ceux qui te font du mal. Sa volonté est importante dans chaque décision que je prends. Je veux connaître et faire sa volonté. Ceci nous ramène à l'incident de la toison. Gédéon est hésitant. L'Éternel est-il vraiment avec moi? Est-ce bien de faire ce qu'il m'a demandé de faire? Il place une toison, c'est-à-dire une peau de mouton, avec la laine. On n'a pas coupé la laine dessus, le poil, quoi, qui est la laine. Il place une toison sur le sol et demande à Dieu, « Je vais mettre la toison de laine sur l'air. » Si la rosée vient sur la toison seule et que tout le terrain sec reste sec, je reconnais que tu sauveras Israël de ma main. Comme tu l'as dit. Il ignore pas la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, Gédéon? Vous voulez savoir ce qu'il fait? Et vous voulez savoir comment Dieu a traité ce problème? Revenez dimanche prochain. Permettez-moi un conseil. Je ne crois pas que vous devez battre des mains. Crier Alléluia, d'accord. Quand on bat des mains, on applaudit l'homme. L'homme n'est pas digne. Jésus seul est digne. Je sais que c'est trop l'habitude ici. Levez vos mains et adorez Dieu. Vous avez été bénis Levez vos mains, merci Seigneur. Nous avons reçu de toi, ô Jésus. Ta parole est la vérité, nous avons besoin de connaître cette vérité. Nous avons besoin de connaître, Seigneur, la vérité qui nous affranchit, la vérité qui nous rend libres, la vérité qui fait de nous de nouvelles créatures, la vérité qui nous délivre, qui nous délivre. Qui nous délivrera si ce n'est toi? Qui nous délivrera si ce n'est toi? Car toi seul tu es digne, toi seul tu es digne, et il n'y en a point d'autre. Toi seul tu es digne, Seigneur. Ô mon Dieu, ta volonté, nous voulons la connaître. Y a-t-il des hommes et des femmes ici qui ont besoin de connaître la volonté de Dieu dans un domaine ou dans un autre? Qu'ils se lèvent ici. Je suis fort surpris de voir tellement de gens qui se lèvent. Tellement de gens qui se lèvent. Vous désirez connaître la volonté de Dieu, c'est à vous à la connaître. Ployez le genou, priez devant Dieu. Soyez honnête vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de Dieu. N'essayez pas de manipuler Dieu, pour faire ce que vous pensez et voudriez qu'il fasse. Non, Dieu ne se manipule pas. Soyez honnête avec vous-même et avec le Dieu saint. Il y a encore beaucoup de choses que Gédéon va nous dire. Que chacun prie maintenant et mette devant Dieu son besoin particulier pour la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu se fasse dans sa vie. Pour que la volonté de Dieu se fasse dans sa vie, parlez à Dieu. Vous voulez savoir? Faites votre propre prière, faites votre propre intercession. Dieu répond aux prières. Croyez-vous qu'à mon âge, bientôt 73 ans, je voudrais vous raconter des histoires qui ne sont pas vraies? Je vous parle d'un chemin que j'ai suivi moi-même. Dieu est vrai. Dieu ne ment pas. Ce qu'il veut voir en nous, c'est l'honnêteté. L'honnêteté vis-à-vis de nous-mêmes. L'honnêteté vis-à-vis de Dieu. La droiture de cœur. La sincérité. Et la foi. J'ai prié. Je sais qu'il me répond.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.